Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Martine Monteil. Ce soir, des débuts remarqués.
Martine Monteil, bonsoir.
Bonsoir.
Toute cette semaine, nous allons dérouler ensemble une carrière professionnelle exceptionnelle, la vôtre. Pour ceux qui vous découvriraient, vous fûtes l'une des premières étudiantes à intégrer en 1976 l'école des commissaires, alors ouverte aux femmes, un an auparavant. Puis vous avez tour à tour dirigé la brigade des stupéfiants, la brigade de répression du proxénétisme, la brigade de répression du banditisme, la célèbre CRIM. Enfin, vous avez été la patronne de la direction centrale de la police nationale. À chaque nouvelle étape de votre vie professionnelle, une première femme aux responsabilités, un pas de géant dans la lutte pour la reconnaissance de l'égalité entre les femmes et les hommes aux responsabilités. Martine Monteil, qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez une enfant ?
Ouf, comme tous les enfants, vous savez, ça va de hôtesse de l'air à rapidement prof. Pas pourquoi je faisais l'éducation. Déjà, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours persuadée que l'éducation est vraiment quelque chose de très très important dans notre société. Donc déjà à l'époque, mais là, ça, c'était simplement comme ça, par goût. J'avais envie d'être professeur et puis j'étais très très forte en sport, en gymnastique, enfin, etc. Je me dis prof de gym, c'est sympa, quoi. C'est, on est au contact des jeunes, c'est, vous voyez, bon voilà, c'était un petit peu le... voilà.
Votre grand-père était policier, votre père était policier. Est-ce que ce choix d'embrasser une carrière dans la police relevait pour vous de l'évidence ?
Pas réellement. Au départ, je n'y pensais pas. Si vous voulez, finalement, j'étais quelqu'un qui observait. C'est-à-dire que j'ai vu des hommes, alors un peu moins mon grand-père que mon père, puisque mon père, bah oui, je vivais au quotidien avec lui, et donc j'ai pu observer. Mais quand même mon grand-père, quand il parlait de ses affaires, des contacts avec des collègues, de cette vie, si vous voulez, je sentais pas quelqu'un d'aigri, de râleur, de vous voyez, non, c'était une forme d'épanouissement, quoi. C'est quelqu'un qui s'était plus dans sa profession. Et quant à mon père, alors moi, j'ai vécu un homme, enfin, aux côtés d'un homme passionné, quoi. Tellement passionné, d'ailleurs, qu'il y consacrait beaucoup d'heures, beaucoup de temps, ce qui, quand même, a nuit au ménage, parce que ma mère, comme d'autres femmes, puisqu'elle était mère au foyer, et à l'époque, il y en avait beaucoup, bah, supportait assez mal les absences de leurs époux, puisque mon père était à la brigade de recherche et d'intervention, l'Antigande, à la création, avec François Lemoyle, et bah, cette brigade nécessitait beaucoup d'heures de planque, comme on dit, c'est-à-dire de surveillance, etc. Donc voilà, il partait souvent.
Quand est-ce que vous décidez d'entrer dans la grande maison ?
Alors, je n'ai pas décidé d'entrer dans la grande maison. J'ai d'abord fait un choix d'études. Et ces études, j'ai été attirée par le droit. J'aimais bien, mais vraiment pas justement comme quelquefois on dit, oh, on fait droit, on ne sait pas trop faire, comme on fait l'être, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et ça, c'est pratique, ça couvre un peu tout. Non, moi, j'aimais bien tout ce qui était droit, tout ce qui concerne d'ailleurs la loi, la règle, enfin, etc. Donc, je n'ai pas été déçue de ce côté-là. Donc j'ai fait mes 4 ans à Sas, et j'ai fait aussi en parallèle d'ailleurs l'Institut de criminologie, parce que au fond et rapidement, si vous voulez, j'ai été attirée par tout ce qui était l'étude du délinquant, c'est-à-dire la science criminelle, la criminologie. Et j'ai eu des professeurs absolument remarquables, et je le dis à chaque fois, et donc j'ai appris beaucoup dans cet institut, et c'est au sortir de cet institut que, là, évidemment, c'est aussi au sortir des études que vous vous dites, bon, ben là, maintenant, ça y est, faut aller dans le grand bain, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, mon père, lui, me disait, ben, rentre dans la maison, c'est la grande maison, la maison. Oui, bon, mais moi, j'avais donc des diplômes d'études supérieures, donc on se dit, c'est un peu dommage. On rentre comment ? Vers la petite porte et tout. Et au fond, pourquoi pas ? Il n'y a rien de désobligeant. Le concours de commissaire n'était pas ouvert aux femmes. Donc de ce côté-là, j'étais bloquée. Mais il y avait le concours de magistrat. Alors, j'étais attirée sans l'être. C'est-à-dire que la matière, c'était ça. Hein, bon, je me disais, bon là, si tu prends cette option, ce sera plutôt juge d'instruction. Ce sont ceux qui sont quand même si proches de l'enquête aussi, etc. Mais ils sont proches de l'enquête, mais ils sont pas sur le terrain. Donc, dans ce métier, c'est un peu ce qui m'en... Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand même par là que j'ai commencé. Et puis, en définitive, non, j'ai abandonné. Et c'est donc vers la police que je me suis dirigée, ce que je n'ai jamais regretté.
Et comment réagissent vos parents ? Vous me dites que votre père était plutôt enclin à vous motiver, ou en tout cas à vous aiguiller pour entrer dans cette profession-là. Votre mère, elle réagit comment ? Elle qui vous
utilise ? Non, ma mère est plus effacée. Et puis, je ne peux pas dire qu'elle garde un souvenir, si vous voulez, éblouissant au travers de ce métier par rapport à elle. Parce qu'elle, elle en a un peu souffert de ce métier. Ce métier lui a volé son mari beaucoup. Hein. Même si elle était... comment dirais-je, elle appréciait les collègues de mon père parce qu'ils étaient souvent à la maison, quoi. C'est-à-dire qu'ils allaient, par exemple, ils devaient partir en planque pour une nuit. Bon, bah, et c'était assez fréquent qu'il amène tous les collègues à la maison, enfin le groupe, en tout cas le groupe. Et puis ma mère, bon, elle cuisinait pas mal, donc il y avait une grande table et allez hop, on mangeait, on dînait avant de partir pour la nuit sur des surveillances, etc. Donc on a connu aussi tous ces collègues, tous ces tant mieux. Et moi, de mon regard d'enfant, je vivais tout ça, quoi. Je trouvais que c'était formidable, ces types qui partaient travailler pour la nuit et qui finalement étaient extraordinairement heureux, passionnés, qui riaient, qui parlaient de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils devaient faire. Enfin, vous voyez, on est toujours avec enthousiasme. Puis vous aviez leur patron qui arrivait, parce que nous, on habitait Vincennes et le commissaire Lemoyle habitait Montreuil à côté. Donc, il savait qu'il allait prendre ses équipes chez nous, voyez. Et donc, il ramassait tout le monde. Allez, les gars, on y va. Et puis tous derrière leur patron, qu'ils adoraient d'ailleurs. Et ça partait pour la nuit jusqu'au petit matin. En fait, on le revoyait le lendemain soir, quoi. Voilà. Si, dans le meilleur des cas, si tout s'était bien passé, sinon éventuellement il pouvait y avoir une autre nuit derrière, quoi. Voilà.
Alors à l'époque, quand vous passez le concours de commissaire en 1976, et les murs de la police arborent bien souvent des affiches qui présentent la police comme un métier d'homme.
Oui.
Comment est-ce que vous réagissez, ainsi que vos 6 autres camarades de même sexe, lorsque vous débutez ici à l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or, à côté de Lyon?
Alors, à l'école de Saint-Cyr, ça ne se sent pas, parce que, au contraire, il est évident que la police nationale, à l'époque, a l'idée vraiment de faire en sorte que les femmes aient le goût d'entrer dans cette institution. Donc, nous sommes plutôt bien accueillis, il n'y a pas de non, ce serait un directeur un peu spécial, certes, mais dans l'excès inverse, c'est-à-dire justement très vigilant quant aux réactions que des professeurs ou des élèves pourraient avoir par rapport à nous. Donc un peu protégé, si vous voulez, mais dans le sens de dire justement, il ne faut pas qu'elle soit déçue, il ne faut pas qu'il y ait un problème, donc bien accueilli. Mais même régime pour tout le monde, il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a pas été favorisé ni rien du tout. Puis c'est comme ça qu'on l'entendait. Je crois qu'on avait tout à peu près quand même un peu ce caractère. Donc c'était bien, tout le monde était au même niveau. Et là donc, il ne s'est rien passé de particulier, quoi. On était encore... C'était un peu le prolongement de l'université. En fait, l'université était mixte, hein, donc vivre homme-femme, mixité. Bon, c'est sûr qu'on était un petit peu en minorité, il faut bien le dire, 8%, 10%, c'est sûr. Mais enfin, on n'en faisait pas un complexe, hein, pas du tout. En tout cas, personnellement, je l'ai très très bien vécu. Ce que vous évoquez, c'est notre arrivée, enfin en particulier. Moi, j'ai particulièrement remarqué lorsque nous sommes arrivés à la préfecture de police, puisque moi, j'ai choisi la préfecture de police, j'ai choisi une brigade territoriale. Hein, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure en introduction, j'étais à la tête, bon, vous avez cité les brigades centrales, mais enfin, j'ai commencé en brigade territoriale. Ensuite, je suis allée, j'ai eu 2 commissariats de quartier, et ensuite, je suis entrée à la brigade des stupéfiants, mais par la petite porte, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu grandir avant de diriger les brigades. Donc je reviens à mon arrivée en tant que stagiaire à la préfecture de police. C'est vrai que quand on est allé faire connaissance avec notre directeur de stage, qui était un homme charmant d'ailleurs, en montant les escaliers, en entrant dans les halls de la PP, eh ben vous aviez des grandes affiches, la police, un métier d'homme, vous voyez. Alors c'était un gardien avec un berger allemand au bout du bras, un autre gardien avec la moto à ses côtés, vous voyez. Enfin bon, bref, vous aviez tout un tas de situations très très viriles, vous voyez. C'était, voilà. Il y avait de la testostérone à tout. Les femmes étaient un peu oubliées. Bon, maintenant, vous voyez que les affiches sont... Il y a également des femmes, etc. Mais si vous voulez, ça m'amusait. Je disais, c'est marrant, la police, c'est un métier d'homme. Et tant mieux. Bon, bon moi, j'adore. Au contraire, pourquoi on n'est pas ennemis. Vous voyez, enfin, moi, j'ai vraiment pas vécu ça comme... Oh là là, qu'est-ce qui va se passer, tous ces hommes. Je rentre dans un milieu hostile. Non.
Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que l'on apprend à l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or?
C'est le prolongement de l'université, c'est-à-dire que vous revoyez certaines mêmes règles, mais vous allez au-delà. C'est-à-dire qu'on commence à vous apprendre un petit peu ce qu'est le métier. Alors, faut être modeste, hein, quand on sort de Saint-Cyr au Mont-d'Or, mais je pense que c'est pareil quand on sort de l'ENM, on n'a pas absolument tout qui fait... que vous allez être forcément le bon commissaire. Disons qu'on vous donne un certain nombre de clés. On vous apprend à la procédure pénale, mais policière, voyez, donc sans ces aspects techniques, policier, c'est-à-dire on revient sur de la procédure. On vous apprend à faire des constatations, c'est-à-dire il y a même des travaux pratiques, c'est-à-dire il y a des mannequins cadavres qui étaient dans la nature ou dans une pièce, vous voyez, il y avait des pièces qui étaient dédiées à ça et on vous apprenait à, voilà, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites, etc. Enfin, c'était les débuts aussi où on commençait quand même un tout petit peu à faire attention sur le plan de la police scientifique, mais on était encore bien, bien, bien loin de ce qu'est aujourd'hui cette discipline. Mais enfin, voilà, on vous apprend un peu des techniques, quoi, c'est-à-dire que on vous familiarise avec ce que va être votre métier, aussi ce que vous devez être un peu, c'est-à-dire l'autorité, le management, etc. Voilà.
Quels souvenirs vous gardez de ces 9 mois de formation, Martine Monteil?
Oh bah que des bons souvenirs. D'abord, j'ai rencontré mon époux, d'autres collègues aussi. Bon, voilà, mais ça, c'est pas, quelque chose de nouveau. Je crois que dans beaucoup d'écoles, que ce soit l'ENA, l'ENM ou autre, bon, ça se passe comme ça aussi de temps en temps. Donc, j'ai rencontré mon époux, j'y ai lié des amitiés qui ont duré, parce que je crois qu'une promotion, ça soude un peu, quoi. Bon, on a des souvenirs communs. En plus, à l'époque, nous restions 9 mois, c'est-à-dire que ça n'était maintenant aujourd'hui, c'est bon, ils font 2 mois, ils reviennent en service, puis 2 mois, voilà, l'organisation est différente. Et là, c'était vraiment 9 mois, donc le temps d'une gestation, on restait dans l'école. Alors, on vivait à Lyon, pratiquement, hein, parce que bon, on pouvait revenir voir la famille de temps en temps, mais bon. On vivait beaucoup sur Lyon, donc on se retrouvait ensemble aussi pour le travail, mais aussi un peu pour la fête. Donc on garde évidemment que des bons souvenirs, y compris des souvenirs de potache, parce que ce qui se passe quand vous êtes comme ça enfermé dans une école pendant de longs mois, à un moment donné, bon, ça, comme on dit vulgairement, on pète un peu les plombs, vous voyez. C'est-à-dire un jour dans le réfectoire, partant de notre table qui était sans doute la plus animée. La plus gaie, eh bien, pouf, on a commencé à balancer la boulette, vous voyez, sur la table d'à côté et tout, et ça terminait en carnage absolu dans le réfectoire, au point qu'un directeur des RH est venu sonner la fin de la récré. Bon, bah, évidemment, hein, c'était quand même très, très sévère, tout le monde s'est calmé, et on appréciait tellement les femmes de ménage que c'est nous qui avons pris l'initiative de nettoyer, vous voyez, donc on était des potaches, mais sympathiques, voilà.
Pour votre premier stage, Martine Monteil, vous choisissez la préfecture de police de Paris. Vous êtes d'abord affecté aux renseignements généraux, puis dans la sécurité publique, avant d'intégrer la police judiciaire, pour vous, le début de l'action. Être dans la police et privilégier l'action, est-ce que ça sonnait déjà, à l'époque, pour vous, comme une évidence ?
Alors, tout d'abord, je voudrais rectifier. Quand vous êtes un an de stage, on n'est pas affecté. C'est-à-dire qu'il y a des filières obligatoires. C'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez les renseignements généraux. Il faut que vous connaissiez la sécurité publique, qui était à l'époque la police municipale, d'ailleurs, hein, tout en étant police. Et puis, la police judiciaire. C'est-à-dire qu'on vous immerge, si je puis dire, dans des directions pour que vous les connaissiez vraiment de l'intérieur. Bon, moi, j'ai joué le jeu, j'ai fait tous ces services. J'y ai appris, d'ailleurs, parce que c'est aussi important de savoir ce que font toutes ces personnes. C'était très, très intéressant. Nous avons d'ailleurs été très bien accueillis à la préfecture de police. Et bien sûr, moi, déjà, je savais que si j'entrais dans la police nationale, c'était pour choisir la police judiciaire. Pour moi, c'est... Alors, ça ne veut pas dire que les autres, ce sont des directions mineures. Hein. Je ne dis pas ça du tout. Hein. Les services de renseignement ont un rôle primordial. Et Dieu sait s'ils l'ont aujourd'hui, comme ils l'avaient dans le temps, mais bon, c'est encore plus vrai aujourd'hui sans doute. La sécurité publique, c'est pareil. Enfin bon, c'est quand même la sécurité au quotidien de nos concitoyens. Je crois que le maintien de l'ordre aussi, bon, il en faut. C'est une nécessité dans une société. Donc, c'était intéressant de voir comment ils travailleraient. Tout en sachant quand même que le choix, je le ferais. Et donc, je me suis... surtout fait mes choix au niveau de la police judiciaire. Et d'ailleurs, dans la police judiciaire, j'ai fait un mois aux mineurs et j'ai fait un mois à la CRIM, même peut-être plus d'un mois, parce qu'on avait le droit ensuite de choisir 15 jours selon notre choix. Donc j'ai rechoisi la brigade criminelle, vous voyez, c'était prémonitoire. Bon voilà, donc c'était ça. Alors, l'action, bah oui, moi, j'ai besoin, d'abord, c'est peut-être sans doute ma nature, vous voyez, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'action. Je suis pas quelqu'un qui aurait pu rester derrière un bureau comme ça, voilà. Je respecte beaucoup ceux qui le font. Et puis nous-mêmes, nous le sommes, parce que on est dans l'action. Puis après, une fois que l'action est terminée, faut écrire. Hein. Il y a une procédure derrière. Donc l'équilibre, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au départ, la motivation, c'est l'action.
Au cours de l'un de vos stages, Martine Monteil, vous faites un petit peu remarquer, on est en 1978 et l'étrangleur des parkings effraie la population parisienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Ah oui, alors c'est un souvenir assez extraordinaire parce que, évidemment, moi je vivais tout à fond, puis j'étais gourmande, voilà. Si j'avais un mot à choisir, j'étais gourmande de ce que je découvrais. Donc, j'étais toujours pas déçue. Donc là, au sein de la police judiciaire, j'ai pas fait donc une brigade centrale. J'ai fait aussi, à l'époque, une brigade territoriale, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des districts de police. C'est-à-dire, c'est une brigade territoriale comprenait plusieurs arrondissements. Voilà. Et là, j'avais choisi la 3e brigade territoriale. Je sais pas si j'avais choisi ou si on m'y avait placé, hein. Ça, je sais plus. Allez, peu importe. Donc, j'arrive et le commissaire était un commissaire à l'époque, qui était assez célèbre, qui était enfin, il sera célèbre surtout avec la brigade de répression du banditisme, puis il dirigera. C'est le commissaire De Vos. Et donc, je tombe chez lui et c'est un homme très ouvert. C'est-à-dire que, il dit, bon, écoute, t'arrives, c'est bien. Alors, il faut que t'en manges, hein. En gros, allez, hop, faut sortir, toire toutes les affaires. Il pouvait pas mieux me parler, quoi. J'attendais que ça. Donc, moi, j'étais avec les gars en permanence, dès qu'il y avait une affaire. Alors, l'avantage, quand vous êtes stagiaire, c'est que s'il y a un groupe qui est en procédure ou qui stagne un peu, vous voyez, où ça n'avance pas, paf, vous pouvez passer dans un autre. Il y a quelque chose qui démarre, une affaire criminelle qui démarre, hop, vous partez. Et là, justement, une affaire criminelle démarre et, exceptionnellement, la brigade territoriale est saisie. Et je comprends qu'en fait, elle est saisie parce que la CRIM, à l'époque, elle est saturée parce qu'il y a des nuits bleues, donc des attentats, un peu, bon, etc. Et du coup, les affaires locales, exceptionnellement, pouf, l'état-major les déleste sur la brigade territoriale. Donc je me régale, une affaire criminelle en brigade territoriale. Je suis folle de ça. Donc, je suis les gars. Et c'est une jeune femme qui est étranglée, qu'on trouve dans un parking, etc., dans le 10e arrondissement, rue Claude Belfaut. Et bon, on n'a rien. Hein, on part de rien. Alors, à l'époque, je dirais que la police, l'identité judiciaire, on parle même pas de police scientifique. Hein. C'est la poudre de perlimpinpin, vous voyez, comme on voit un peu dans les films, enfin le truc où quand vous avez de temps en temps, avec beaucoup de chance, une empreinte digitale, Quelques photos, et puis voilà, quoi. Et puis tout le monde se balade sur la scène de crime. Enfin, bon, ça n'a rien à voir. Bon. Quoi qu'il en soit, ça n'empêchait pas de faire de la police et de réussir des affaires. Hein. Mais bon, disons que on n'avait pas les atouts que nous avons aujourd'hui. Alors donc, on a cette affaire, puis on en a une autre. Alors là, on a une agression aussi, si je me souviens. Enfin donc, plusieurs affaires, on comprend que... Une forme de répétition, voire une série, commence à y avoir une psychose. Mais alors, une psychose, je n'ai vraiment jamais vu ça. C'est-à-dire que les journaux titraient l'étrangleur sévit dans le 10e. Plus une femme n'entrait dans un parking, ça pénétrait avec sa voiture dans un parking. Enfin, c'était affreux. Une telle psychose dans la population que le préfet de police, à l'époque... demande à ce qu'on fasse des rondes battues. Les rondes battues, c'est-à-dire que, bon, bah, on y va un peu au hasard, au flanc, comme on dirait, hein, dans le jargon. C'est-à-dire, bon, bah, allez, on va se balader dans des parkings, on rentre dans des parkings. Et donc, pour faire ça, il fallait, entre guillemets, des chèvres, c'est-à-dire des appâts. Et les appâts, c'était les filles. Donc, en fait, on a pris les rares femmes policières qu'ils avaient dans les services, et hop, on nous faisait pénétrer dans quelques parkings du 10e, vous voyez, on entrait, on ne sait jamais, des fois qu'on le rencontre, vous voyez, et tout. Sauf que maintenant, avec le recul, vous voyez, je me dis, on n'avait pas du tout les moyens que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire, bien sûr, pas de téléphone portable, les radios, ça crachouillait trop pour qu'on l'ait sur soi, donc pas question, on n'avait rien, quoi, bon, un sifflet, bon, on savait aussi quand même qu'il y avait des policiers, des collègues qui étaient dans l'ombre derrière nous, quoi. Enfin, c'est vrai que c'était pas très, très rassurant. Enfin, ces rondes battues existaient. Je pense que c'était aussi un peu un plan com. Et que, voilà. Donc, c'est vous dire, c'était la psychose. Il fallait un peu rassurer les Parisiens. Mais c'est pas comme ça qu'on l'a attrapé.
Et vous l'avez attrapé comment, alors?
On l'a attrapé par l'enquête. C'est-à-dire que, la dernière victime était une femme d'origine yougoslave. On comprend qu'elle a une liaison avec. Et à partir de la liaison de cette femme, si vous voulez, on tire le fil vers lui. Vers lui. Et donc, on se rend compte que cet homme a été condamné en Yougoslavie pour des affaires à connotation sexuelle, qui d'ailleurs, on apprend qu'il était quelqu'un de très, très revêche, très dur, et il avait avalé des morceaux de fourchette en prison pour se faire hospitaliser, tenter de s'évader, vous voyez, enfin bon, vraiment, c'était... Bref. Et donc, on se dit, tiens, voilà un garçon qui est intéressant, donc on finit par l'identifier, je fais court, on l'identifie, donc on le loge, il vit chez sa maman dans le 10e, donc pas loin finalement. Donc c'est un crime de secteur, vous voyez. Puis un jour, donc, on décide de l'interpeller. En perquisition, on retrouve une fourchette. Décidément, ça n'a rien à voir avec la première histoire. Et on retrouve la première fille, rue Claude Velfaux, qui a été assassinée. Il l'a menacée avec une fourchette, en fait. En fait, on a retrouvé dans la voiture. Bon. Sauf que, si vous voulez, c'est la banale fourchette que vous trouvez dans n'importe quelle prise unique à l'époque. C'est un élément, c'est quand même la même fourchette, mais enfin, bon, je veux dire, n'importe quel avocat, c'est assez facile de dire. Bon, on n'avait rien, donc, en fait, en gros, on n'avait rien, on a le bonhomme, il a un profil qui va bien, il y a la fourchette, mais bon, on le ramène au service. Alors, inutile de vous dire qu'au service, c'était place du Faubourg Saint-Honoré, qui était la 3e brigade territoriale. De ma vie, je découvrais aussi, moi j'avais des yeux neufs, hein, bon. Et il y avait, une foule de journalistes, je dis bien une foule. Il y avait que des micros, des caméras, des machins, parce qu'en fait, l'étrangleur était supposé avoir été arrêté, donc, et tout. Et donc, Serge Devos avait fait savoir que oui, bien sûr, c'était le cas. Donc, les journalistes, bon. Donc, et il est entendu par les policiers. Et là, bon, c'était une autre époque, hein, donc lui, c'est un dur, il parle pas, il les provoque, donc ça se passe mal. Et ils lui font peur, ils le bousculent un peu, raisonnablement, mais enfin, bon, c'est un costaud, il dit « Ah non, tu te fous de nous », etc. Enfin, je sentais, moi, j'étais pas là, hein, j'étais pas présente, mais j'entendais bien à côté que ça se passait mal, hein, pour lui. Et finalement, ça n'a pas marché, le type s'est encore plus bloqué, quoi.
Renfermé.
C'est renfermé totalement et tout. Alors, je fais cours, les collègues partent en déjeuner, à un moment donné, font une pause, hein, parce que bon. Et lui, il est replacé en cellule. Et moi, je reste avec un inspecteur principal, qui était un garçon. Je dis pas qu'il me cornaquait, mais sur cette affaire, c'est un peu ça, parce que. Que nous, on avait décidé, à l'époque où on balbutiait dans l'enquête, c'est-à-dire d'aller chercher, fouiller dans tous les fichiers à des individus qui avaient commis des actes, si vous voulez, à caractère sexuel. Donc c'était un boulot assez fou de fouiller dans les procédures, de voir ce qui pouvait correspondre en 10e arrondissement, etc. Enfin bon. Donc on reste tous les deux. Et puis, je me dis, bon, si on lui parlait un peu, voilà, quoi. Et on n'a qu'à lui offrir un sandwich et puis quelque chose à boire, quoi. On va bien voir, ça. Alors, on va le faire et tout. Donc, on s'installe, on le fait venir dans un bureau et puis on lui donne à manger. Il mange. Mais alors, le type, on voyait pas ses yeux. Hein, c'est-à-dire qu'il avait toujours le regard baissé. Donc, il buvait, il grignotait son truc et tout. Et moi, j'avais pris sa fouille, comme souvent on le faisait quand on ramenait quelqu'un de cellule. Et dans la fouille, il y avait son portefeuille. Moi, je n'avais pas vu ce qu'il y avait dedans. Parce que moi, je suis que stagiaire, hein, je le rappelle. Hein. Donc, et là, du coup, je fouille. Et là, je vois une photo d'un enfant de 2 ans, quoi. Un petit garçon de 2 ans. Oui, j'ai dit, tiens, alors je lui montre. Je lui dis, c'est ton fils, c'est ton neveu, c'est qui alors. Et là, pour la première fois, le gars lève les yeux, ne serait-ce qu'il regarde la photo. Et en fait, il me répond. Voilà. Alors, bon, bah. Je pense que le lien est un peu créé. Et donc là, je lui dis que ce petit garçon, ce qui est dommage, c'est que, bah, avec ce qu'il y a, ce qui le concerne, bah, il le reverra pas avant 25 ans, au mieux, quoi. Bon, etc. Alors, voilà, bon, ça part comme ça. Et après, bah, je balance tous les arguments d'un interrogatoire, c'est-à-dire quelquefois même de mauvaise foi qui vous fait mal aux tripes, c'est-à-dire que je dis même que les victimes ont pu être provocantes, voyez, c'est-à-dire alors quand vous connaissez la vie des victimes, vous vous dites mon Dieu, on salit sa mémoire, mais bon, non, on cherche la vérité. Donc voilà, on va jusque là, et puis de fil en aiguille, à un moment donné, je lui dis que si il collabore, voilà. On s'arrangera pour faire en sorte qu'on fasse comprendre que, voilà, sa pulsion, c'est dû à ça, vous voyez, je reviens sur des arguments, et il finit par avouer, bon, alors, à l'époque, on n'avait pas d'informatique, donc l'inspecteur principal était à la machine Olympia, la vieille Olympia qui fait un bruit d'enfer, alors il commence à taper, si vous voulez, bon, et entre-temps, il y a les autres, là, qui rentrent de déjeuner, il y a le patron qui passe la tête, alors l'inspecteur principal, lui, il fait, tu as l'air de dire, bon là, qu'il se passe quelque chose, laissez-nous et tout. Et donc, on l'a laissé se livrer. Et alors, ce qui était extraordinaire, moi, ce qui m'a le plus étonné dans cette affaire, bon d'accord, ok, on déclenche, ça y est, il finit par avouer. Mais quand il avoue, après, il avoue et il y va. C'est-à-dire, il donne des détails même, à connotation sexuelle. Il va loin, il raconte tout. Il donne des détails aussi. On avait besoin de détails. De même les lieux, parce qu'il est monté aussi dans leur domicile, etc. Donc, ce qu'il raconte, il ne peut pas l'inventer. Ce n'est pas dans les journaux. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'il y était. Donc, que c'est bien lui. Ça devient une vraie preuve. Comme quoi, l'aveu, ça sert aussi à quelque chose.
Merci Martine Monteil. On se retrouve demain sur les traces de vos premiers pas en tant que commissaire de la 4e brigade territoriale de Paris.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Martine Monteil. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Marc Garvenès, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.